La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Et ainsi, tous, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, nous sommes vraiment l'enfant bien-aimé de Dieu. Nous chantons ensemble la louange à Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français dans le livret liturgique « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour le bonheur de son nom. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec toi, avec moi, mon Dieu. Tu me guides, tu me rassures. Tu prépares une table pour me réconcilier avec mes adversaires. Tu verses l'huile de bénédiction sur ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et je reviens et j'habite la présence de l'Éternel pour toujours. Alors, je vous propose de chanter ensemble notre louange à Dieu avec ce psaume 23, donc Dieu, mon berger, me conduit et me garde, dans le psautier français, les trois strophes du psaume 23. pouvez prendre place. Donc bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte. C'est vraiment une joie de pouvoir ainsi être ensemble pour chercher Dieu et pour lui rendre grâce. Bienvenue particulièrement donc au professeur Marc Boss, donc, qui travaille à la faculté de théologie protestante de Paris et qui nous donnera la prédication ce matin. Et puis bienvenue tout particulièrement aussi à Luc de Marconnet qui a souhaité faire une profession de foi parmi nous ce matin. Donc pour nous, c'est un moment important aussi d'accueillir une personne qui franchit comme ça des étapes et qui nous dit un peu pourquoi. Donc c'est vraiment pour nous un moment important. Merci. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon les paroles de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras avec intelligence, nous dit Jésus. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Nous prions Dieu pour lui demander son pardon et son aide en suivant du cœur ce psaume de David. Écoute, Éternel, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Oui, c'est ta présence, ô Éternel, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours. Ainsi, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Montre-moi ton chemin, ô Éternel. Conduis-moi par des routes sûres, malgré le mal, la faiblesse, la douleur qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversité. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est lui-même qui me dit, espère l'Éternel, sois fort et prends courage, espère l'Éternel. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et chacun d'entre nous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Oui, Dieu se penche vers nous en Christ et nous dit, « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. pouvez prendre place. Et puis je souhaite la bienvenue donc à Luc, qui a demandé à faire une profession de foi parmi nous ce matin. Vraiment bienvenue. Alors bravo pour votre parcours riche, en particulier avec donc votre pasteur aumônier Philippe de Bernard, qui vous a signalé l'oratoire comme pouvant vous convenir. Donc j'allais dire merci, bravo. Un parcours riche aussi avec votre passion pour l'histoire, qui a nourri aussi votre réflexion, votre cheminement, puis aussi dans l'accompagnement de personnes qui étaient en difficulté, donc dans votre travail, aussi dans votre vie personnelle. Et puis pour nous, la joie de vous avoir parmi nous, souvent au cours du culte, même si vous êtes discret dans le fond de la nef. Donc c'est vrai que c'est pour nous voilà, aussi un témoignage, un enrichissement. Et puis dans le groupe d'initiation à la théologie, et puis dans vos lectures personnelles de la Bible, de la théologie. Donc merci et bravo. Et puis aujourd'hui, vous souhaitez donc dire officiellement, publiquement, votre désir d'être chrétien dans l'oratoire du Louvre, mais plus largement dans l'Église protestante unie. Alors c'est une joie et c'est un honneur pour nous. Alors, traditionnellement, dans notre Église, nous demandons comme confession de foi, la confession de foi minimale qui rassemble, je pense, vraiment tous les chrétiens de toutes sortes. Donc Luc, avec toute l'Église chrétienne, à travers les générations et à travers les différentes communautés, voulez-vous confesser votre foi ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors, c'est vrai que vous avez préparé quand même quelque chose qui dit un peu plus précisément, c'est-à-dire votre foi, votre théologie, votre espérance en Dieu. Eh bien, ce sera pour aujourd'hui, pour ce dimanche, la confession de foi donc de notre Église. Alors, je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur à cette déclaration de foi chrétienne.
Je crois en Dieu, architecte de notre monde, qui a su pourvoir celui-ci de tous les bienfaits, à commencer par la vie. Notre Père qui a donné son Fils pour témoigner de la puissance de son amour face aux ténèbres. Je crois en Jésus-Christ qui nous invite à nous convertir et à suivre sa lumière en nous libérant par la prière de la prison des illusions. Je crois en l'Esprit-Saint qui anime nos cœurs et permet au souffle divin de jaillir pour nous faire cheminer vers lui, voyager à la découverte du monde, de l'autre et de soi-même, à être des témoins de l'Évangile. Oui, je crois en Dieu de tout mon cœur, comme une évidence, tout simplement. Amen.
Grand merci, Luc. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place, sauf nous on reste là. Alors croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre sauveur et c'est chercher à le suivre car il est notre Seigneur. Luc, avec le secours du Saint-Esprit, vous vous efforcez, nous en sommes témoins, sincèrement à vivre en Christ, en aimant Dieu de tout votre être. Et en cherchant à servir votre prochain selon ce que Dieu vous adresse comme vocation personnelle. Et vous avez soin de votre propre développement. Bravo et merci. Vous avez reçu autrefois le baptême, signe de l'amour que Dieu vous manifeste personnellement. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église protestante. Dieu vous bénit et vous garde. Il éclaire votre route par sa parole, il vous donne la paix par sa présence, Il vous donne d'être une bénédiction pour ceux qui vous sont confiés, et pour cela, oui, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous les renouvelle, qu'il les approfondisse jour après jour. Alors vous avez accepté de dire quelques mots un peu sur votre cheminement. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très agréable comme exercice, car on désire pas forcément se raconter devant tout le monde, mais c'est vrai que c'est pour nous un enrichissement d'avoir aussi quelques pistes de ce qui vous a permis d'avancer, parce que bon, nous sommes un peu le même genre de bêtes, même si chacun a une personnalité différente, mais ça peut nous donner des pistes. Donc merci beaucoup.
Lorsque nos pasteurs m'ont proposé de poser la première pierre de mon nouveau sentier par une profession de foi, ce fut à la fois une joie réelle de partager, de communier avec mes sœurs et frères de l'oratoire, d'officialiser en quelque sorte mon désir de faire partie de la communauté, mais également un temps de réflexion, de méditation, d'introspection. Proclamer sa foi me paraît tellement naturel que l'actualité nous rappelle qu'aujourd'hui encore, cette évidence ne l'est pas pour tout le monde, que d'autres chrétiens sont persécutés pour ce qu'ils sont, que des femmes et des hommes meurent uniquement parce qu'ils ont une foi, et que d'autres tuent ou détruisent au nom de la leur, qu'ils prétendent meilleurs ou plus authentiques. Alors quelle signification personnelle puis-je donner à cette proclamation partagée avec vous ce matin ? Proclamer sa foi, c'est tout d'abord et avant tout, me semble-t-il, être reconnaissant envers Dieu. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu ? Pour reprendre la question posée par l'apôtre Paul. Cette reconnaissance porte sur les bienfaits dont il sait nous pourvoir, et surtout, car j'ai été particulièrement béni en la matière, sur les personnes qu'il sait placer sur notre chemin. Outre ceux qui m'ont donné la vie, pas seulement biologique, mais également religieuse, je pense à ceux qui, par leurs actions, bonnes ou mauvaises, ont fait de moi l'homme que je suis, à mon aumônier militaire, le pasteur Philippe de Bernard, qui m'a guidé jusqu'ici, tant physiquement que spirituellement, et a su me rendre lucide, en ce sens qu'il a su éclairer ce qui en moi peinait à se faire jour. Enfin, je remercie nos pasteurs de l'oratoire, tout particulièrement le pasteur Pernaud, qui m'accompagne également sur le chemin de l'approfondissement théologique en l'éclairant de son expérience personnelle. Proclamer sa foi, c'est aussi se rappeler que nous avons été créés à l'image de Dieu, ce qui induit la nécessité d'assumer la responsabilité qui nous incombe depuis notre baptême, celui d'être un témoin, un acteur de ce monde, dans ce monde, de ne pas rechercher frénétiquement les sécurités, tant matérielles que spirituelles, pour se replier derrière, comme des remparts, mais au contraire, de s'ouvrir au monde, à l'autre, sans préjugés, même si cela est moins sécurisant. Proclamer ma foi aujourd'hui devant vous et former des projets dont je sais que c'est Dieu qui aura le dernier mot, revient à me mettre en marche, fort de sa confiance, comme il l'a promis à Jacob. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas. Genèse 28, 15. Que Dieu me soit en aide.
Merci beaucoup, Luc. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, en particulier pour ton esprit qui habite au plus profond de notre être, nous rassurant, nous fortifiant, nous faisant évoluer. Merci pour ta parole qui nous ouvre à toi et qui nous fait aimer ce monde et ses habitants. Merci pour le Christ et tout ce qu'il apporte. Notre Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Luc. Nous l'avons accueilli parmi nous ce matin et c'est pour nous une grâce. Nous te le remettons avec ceux qui lui sont chers. Qu'il grandisse encore et nous avec lui dans ta grâce. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Un grand merci.
Nous lirons trois textes bibliques ce matin, tous les trois dans l'évangile de Luc. Le premier au chapitre 1er, versets 46-55. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Notre seconde lecture de ce matin se trouve au chapitre 18, toujours de l'évangile de Luc, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Troisième lecture, Évangile de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? « Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Nous chanterons au cantique 250, les strophes 1, 2 et 3. Nous prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que ton esprit nous éclaire et qu'il ouvre nos cœurs pour nous faire vivre jour après jour de ta parole de justice et de miséricorde. J'ai beau le savoir, chers amis, je suis toujours étonné de voir à quel point un même récit de l'Évangile peut recevoir des titres différents selon la traduction dans laquelle on le lit. La raison, vous la connaissez. Ces titres ne font pas partie du texte biblique. Ils ont été ajoutés après coup par des éditeurs pour faciliter notre lecture. Un titre, au fond, c'est une proposition d'interprétation. Prenons l'histoire que raconte le troisième passage lu ce matin dans l'Évangile de Luc. Selon les éditions, cette histoire s'intitule « La pécheresse repentante » ou « Jésus et la pécheresse » ou « L'onction de Jésus par la pécheresse » ou « La pécheresse pardonnée et aimante » ou encore, et la liste n'est pas exhaustive, « Jésus oint par une pécheresse dans la maison d'un pharisien. » Chacun des cinq titres souligne un élément particulier de l'histoire. Mais tous semblent d'accord pour dire que le personnage central est cette femme anonyme que le récit nomme la pécheresse. Sur les cinq, un seul mentionne qu'il y a aussi un pharisien dans le récit. Mais c'est simplement pour nous apprendre qu'il est le propriétaire de la maison dans laquelle se déroule la rencontre entre Jésus et la femme anonyme. Un peu comme si le pharisien faisait partie du décor de l'histoire plutôt que de l'histoire elle-même. Ce pharisien, nommé Simon, joue pourtant un rôle aussi crucial que la femme anonyme dans le récit de Luc. À certains égards, les projecteurs du récit sont braqués sur lui davantage que sur la femme qui fait intrusion dans sa maison. Jésus s'adresse à l'un et à l'autre, mais quand il parle à Simon, c'est pour lui poser une question. Et Simon lui répond. Quand Jésus parle à la femme anonyme, ses paroles n'attendent pas de réponse. Et il n'en reçoit d'ailleurs pas. Dans tout le récit, la femme demeure parfaitement muette. Et non seulement elle reste silencieuse, mais le narrateur ne nous dit rien de ce qu'elle pense ou de ce qui la motive, alors qu'il nous renseigne abondamment sur les pensées secrètes de Simon et même sur celles de ses convives. Que faut-il en conclure? Que le lecteur auquel le récit est destiné s'identifie spontanément avec Simon et ses convives, et pas avec l'intruse échevelée. Le narrateur explique au lecteur pourquoi, contre toute attente, Jésus prend le parti de la femme et pas de Simon. Le comportement qui choque le lecteur de Luc, ce n'est pas celui de Simon, qui agit comme agirait n'importe quel honnête homme en pareille circonstance. Le comportement qui choque, c'est d'abord celui de la femme, mais c'est aussi et surtout celui de Jésus qui prend sa défense. Juste avant de raconter cette histoire, Luc rappelle qu'on reproche à Jésus d'être un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Dans tout le troisième évangile, on voit en effet Jésus prendre constamment le parti des publicains et des gens de mauvaise vie. Et Jésus n'en disconvient pas. C'est pour les malades qu'il est venu, pas pour les bien portants. Élever les Indes, dont parle le cantique de Marie, voilà sa mission. Une belle et noble mission, me direz-vous. Oui, mais une mission qui ne va pas de soi. En tout cas, pas pour tout le monde. Rappelons-nous précisément les paroles du cantique de Marie. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Ça sonne comme une bonne nouvelle, cette affaire-là. Oui, pour les humbles et les affamés. Mais allez dire ça aux puissants renversés de leur trône, aux riches renvoyés à vide. Eh bien, c'est à eux précisément que Luc s'adresse quand il raconte l'histoire de Simon et de la femme pécheresse. Qui sont-ils, ces puissants que Dieu abaisse tandis qu'il élève les humbles? Si on s'en tient au texte du cantique de Marie, on peut penser qu'ils sont une figure de l'oppression, dont le combat entre Moïse et Pharaon est l'exemple archétypique. Quand on lit le cantique de Marie isolément, il est certainement possible et légitime de le lire comme l'expression, disons, d'une théologie de la libération, de la délivrance d'Israël des mains de son oppresseur. Mais quand on le lit dans son contexte littéraire immédiat, c'est-à-dire l'évangile de Luc dans son ensemble, on s'aperçoit que le double mouvement d'abaissement des puissants et d'élévation des humbles structure le troisième évangile comme un véritable leitmotiv. Or, qui sont chez Luc les acteurs récurrents de ce double mouvement d'ascenseur, si vous me permettez cette image? Les peuples opprimés qui subissent le joug de ce nouveau pharaon, qu'est la puissance d'occupation romaine? Non. Les acteurs du mouvement d'ascenseur sont invariablement les publicains et les gens de mauvaise vie d'un côté, les pharisiens de l'autre. Le texte le plus explicite à cet égard, c'est la parabole dans laquelle Jésus oppose le publicain et le pharisien dans notre deuxième lecture de ce matin. Jusque dans son explication finale, « Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé », cette parabole peut se lire comme un commentaire, une clé de lecture du cantique de Marie. Les puissants que Dieu abaisse, ce sont les pharisiens. Les humbles que Dieu élève, ce sont les publicains et les pécheurs. À la question « Qui sont pour Luc les puissants du cantique de Marie ?», il faut répondre « Les pharisiens ». Mais il nous faut à présent nous demander « Qui sont les pharisiens chez Luc ? Sont-ils à la religion ce que Pharaon est à la politique ? La figure du méchant qu'on aime détester, celui dont la chute fait plaisir à voir, tant elle paraît méritée, tant elle paraît rétablir une justice bafouée. Il serait tentant de le croire. Tentant de croire que nous autres chrétiens n'avons rien à voir ni de près ni de loin avec les pharisiens. Surtout si les pharisiens doivent être identifiés avec les puissants abaissés dans le cantique de Marie. Mais chez Luc, les choses ne sont pas aussi simples. Et les chrétiens que nous sommes ne peuvent pas s'en tirer à si bon compte. Dans les autres évangiles, c'est vrai, les pharisiens ont rarement le beau rôle. Ils sont le plus souvent présentés comme des personnages retors, animés d'intentions hostiles envers Jésus. Curieusement, Luc est le seul parmi les évangélistes à montrer Jésus invité à la table d'un pharisien. Dans le passage qui précède immédiatement notre récit, Luc rappelle pourtant lui aussi que Jésus a mauvaise réputation auprès des pharisiens et des spécialistes de la loi. Ne disent-ils pas de Jésus qu'il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ? Ce Jésus a décidément de drôles de fréquentation, semble nous dire Luc. Non seulement il fréquente ostensiblement ceux que les pharisiens considèrent comme des personnes infréquentables, mais il fréquente aussi les pharisiens eux-mêmes. À trois reprises, Luc montre des pharisiens qui invitent Jésus à leur table. À chaque fois, les échanges sont vifs. Et Jésus n'est pas tendre avec ses hôtes, c'est vrai. Mais, tout véhément qu'il soit, ces échanges ont lieu dans le cadre convivial d'un repas que les pharisiens partagent avec Jésus. Un échange convivial, c'est un échange entre convives. À ce titre, la convivialité n'est pas forcément synonyme de délicatesse et d'affabilité. Elle peut être pugnace et querelleuse, comme on le voit dans les repas de famille, parfois. Quand à la fin d'un banquet de mariage, le cousin Marcel hausse le ton pour dire à l'oncle René sa façon de penser, et quand l'oncle René hausse le ton à son tour pour répondre au cousin Marcel, personne ne s'inquiète outre mesure. Chacun sait qu'un banquet de famille sans dispute, ce n'est pas un vrai banquet de famille. Eh bien, si on en croit les recherches récentes sur les relations que Jésus et ses disciples entretenaient avec les pharisiens, il semblerait que les querelles tonitruantes entre ces deux groupes étaient en fait, elles aussi, des querelles de famille. Dans les familles, c'est bien connu, les querelles augmentent en fréquence ou en intensité quand on s'approche du cercle le plus intime. Plus on est proche et plus on se dispute. Regardez l'apôtre Paul après sa conversion sur le chemin de Damas. Il rompt avec le groupe des pharisiens auquel il avait un temps appartenu. Il devient même un de leurs plus ardents critiques en relayant le message des paraboles de Jésus. C'est de la grâce divine et non de l'obéissance à la loi que dépend notre salut. Et pourtant, quand Paul est appelé à défendre ses idées devant le tribunal juif du Sanhédrin, il rappelle à ses juges qu'il est lui-même pharisien et fils de pharisien. De même, entre Jésus et les pharisiens, les désaccords sont vifs et s'expriment souvent avec vigueur et verdeur. Mais quand la vie de Jésus est menacée, ce sont des pharisiens qui viennent l'avertir qu'Hérode veut le faire mourir. Deux livres du Nouveau Testament mettent en relief ces drôles de relations entre le groupe de Jésus et celui des pharisiens. Il s'agit de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres. Vous savez que ces deux livres forment un ensemble et sont l'œuvre du même auteur. C'est dans les Actes des Apôtres qu'on trouve l'épisode de Paul devant le Sanhédrin. Et c'est dans l'évangile de Luc et dans aucun des trois autres qu'on rencontre des pharisiens assez proches de Jésus pour l'inviter à manger avec eux. Alors, sachant tout cela, on devine que dans la perspective de l'évangéliste Luc, Simon le pharisien est davantage qu'un personnage de second plan dans le récit. ce récit de la rencontre entre Jésus et la femme dite pécheresse. Que savons-nous de Simon ? Pas grand-chose à première lecture. Mais à lire le récit de plus près, on y trouve au moins trois indices qui permettent de mieux cerner le personnage. Premièrement, Simon invite Jésus à manger avec lui. Comme on l'a vu, c'est plus qu'un détail anecdotique. Deuxièmement, Simon s'adresse à Jésus avec respect, en l'appelant maître. Et troisièmement, Simon se demande s'il faut ou non voir en Jésus un prophète. Faut-il ou non voir en Jésus un prophète ? Par ce troisième indice, le narrateur de l'Évangile nous fait entrer dans les pensées secrètes du pharisien. Dans ses paroles, Simon semble plutôt favorable à Jésus. Dans ses pensées, il apparaît plus hésitant. Pas hostile, hésitant. Le comportement de Jésus le laisse perplexe. Il se pose des questions. Pourquoi Jésus laisse-t-il cette femme s'approcher de lui ? Pourquoi encourage-t-il un comportement que la loi et la bienséance réprouvent ? Est-ce bien ainsi qu'agirait un prophète ? Ces questions que Simon n'exprime pas ouvertement devant Jésus, le lecteur de Luc se les pose également. En lui permettant de lire dans les pensées de Simon, Luc offre à son lecteur un personnage qui lui ressemble. Un personnage bien disposé envers Jésus, mais troublé, déstabilisé, peut-être même scandalisé par la scène à laquelle il assiste. Relisons la scène pour bien nous la mettre en mémoire et aussi pour en mesurer la force de scandale. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était une pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière tout en pleurs aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes, elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. On comprend que Simon ait pu voir là un comportement insolite, incongru même. Rien que par son allure, cette femme transgresse les règles morales et religieuses de la société dont Simon est un notable respecté. Selon ces règles, une femme honorable ne sort pas en public avec les cheveux détachés sur l'épaule. Elle les tient soigneusement attachés, dans un filet recouvert d'un voile. Pas besoin donc d'être un prophète particulièrement perspicace, un voyant extra-lucide, pour deviner ce que Simon sait déjà ou croit déjà savoir. Cette femme n'est pas de celle qu'un honnête homme est censé fréquenter. Par sa seule apparence extérieure, l'héroïne du récit est immédiatement identifiable par les convives comme une prostituée, ce que le texte suggère pudiquement en parlant d'une femme pécheresse. Comme le note la théologienne Martina Schmidt, les prostituées ne sont pas rares à cette époque en Palestine. Pour bien des femmes seules, c'est pratiquement l'unique moyen qu'elles ont de subsister. Les métiers de femmes sont peu nombreux, le tissage trop mal rémunéré pour permettre à quelqu'un d'en vivre. Oui, mais pour Simon, ces considérations économiques et sociales n'entrent évidemment pas en ligne de compte. Pour lui, la femme qui fait éruption chez lui, c'est d'abord et surtout une femme impure au regard de la loi, d'où son indignation. Mais voilà, cette femme n'a que faire de l'indignation de Simon et de ses convives. Le récit la montre déterminée à se donner une chance d'approcher ce Jésus de Nazareth dont la rumeur dit qu'il est l'ami des humbles, des laissés pour compte et des exclus. C'est un courage admirable que le courage de cette femme, l'audace prodigieuse des êtres qui n'ont plus rien à perdre. Et cette audace, elle n'aura pas à la regretter, puisque Jésus prendra sa défense en portant sur elle un regard qui n'est pas un regard de rejet, qui n'est pas un regard de mépris. Oui, devant celui en qui elle a placé tout ce qui lui reste de confiance, elle se sent enfin respectée. Et tout se passe alors comme si tombaient brutalement dans un flot de larmes toutes les humiliations, toute l'amertume et tout le découragement accumulés au long des années. Pendant ce temps, Simon n'y comprend plus rien. Il s'attendait à ce que Jésus réprime l'intruse et lui fasse un sermon. Mais c'est à Simon que Jésus fait un sermon pour lui montrer que l'amour et le pardon de Dieu sont plus grands que les formes légales et religieuses dans lesquelles nous essayons de les contenir. Oui, les baisers donnés, les larmes versées, le parfum répandu, toutes ces choses peuvent sembler excessives, et sans doute le sont-elles. Mais cet excès ne fait que répondre à l'amour excessif que Dieu nous témoigne. Face à l'exigence infinie de la loi, Simon et la femme échevelée sont logés à la même enseigne. Ils sont comme les deux débiteurs de la parabole racontée par Jésus. L'un doit une grande somme au créancier, l'autre une petite. Mais ni l'un ni l'autre n'a de quoi rembourser. Ni l'un ni l'autre. La parabole est formelle sur ce point. En conséquence, ajoute Jésus, le créancier leur fait grâce de leur dette à tous les deux. Ce que la femme pardonnée sait déjà, Simon doit encore l'apprendre. La différence qui sépare l'existence la plus sainte de l'existence la plus misérable perd toute signification devant l'abîme infini qui les sépare l'une et l'autre de Dieu. La comptabilité de nos mérites n'a plus cours devant cet abîme que Dieu seul peut franchir et qu'il franchit inlassablement pour nous secourir et nous faire vivre dans l'excès de sa miséricorde. Amen. Nous nous lèverons pour chanter. Cantique 407, strophe 1, 3 et 4.
Prenons place. Merci donc au professeur Marc Boss. Vous pouvez le retrouver notamment dans les écrits de Roger Williams qu'il a édité avec une préface tout à fait intéressante qui est publiée chez Labor et Fides, je crois. Voilà, parmi quelques ouvrages qui permettent de pouvoir continuer avec lui. Dans notre agenda cette semaine, lundi, c'est le groupe biblique pour les progressants qui se réunit à 19h30. Mardi, c'est le grec biblique pour les débutants. Jeudi, à 19h30, la répétition du chœur. Je ne sais pas si vous avez pu bénéficier du concert qui a été donné cette semaine, mais je pense qu'il y a là matière à vous encourager à rejoindre le chœur. On recrute dans tous les pupitres. Dimanche prochain, notre culte est à 10h30. Il sera suivi d'un repas paroissial, comme chaque premier dimanche du mois. Et vous pouvez vous inscrire soit au comptoir librairie, soit auprès du secrétariat cette semaine, de façon à ce que nous puissions préparer au mieux les quantités astronomiques de nourriture qui seront préparées. De l'excès en toute chose. D'ores et déjà, vous pouvez noter deux mardis soirs. Le mardi 9 à 20h, ici même au Temple, Pierre Jox donnera une conférence sur la justice des mineurs. Et la semaine suivante, mardi 16, au Temple également, c'est l'évêque épiscopalien John Shelby Spong qui donnera une conférence à l'occasion de l'édition d'un de ses ouvrages, « Né d'une femme », ouvrage traduit par Abigail Bassac au demeurant. Voilà donc un agenda qui se remplit et un portefeuille qui va maintenant se vider puisque c'est le moment de l'offrande. Nous nous unissons dans la prière. Nous voulons être les convives de l'amour, les convives de la vie authentique, les convives de l'éternel. Oui, nous voulons être les convives de l'ami des humbles, des laissés pour compte, des exclus. Nous n'avons que faire des indignations de façade, des postures momentanées. Nous voulons être le fidèle serviteur de cette hospitalité évangélique qui ne rejette pas ceux qui font appel à l'Éternel. Nous voulons être les convives des hommes et des femmes de notre temps. Nous voulons apprendre à porter un regard bienveillant sur les personnes que nous rencontrons. Nous voulons apprendre à nous débarrasser des attitudes de rejet et de mépris. Nous voulons apprendre à ne plus réprimander l'intrus. Nous voulons apprendre à mettre fin aux humiliations, à l'amertume, au découragement. Et pour cela, nous voulons apprendre à être perméables à la miséricorde. Nous voulons que l'amour excède en toutes circonstances. Nous voulons être audacieux en faveur de l'amour et du pardon qui excède toutes les formes de légalisme, toutes les formes religieuses, tout ce dont nous sommes capables. Oui, nous voulons apprendre la liberté de ton et de dialogue pour faire retentir sans gêne l'évangile de la grâce inconditionnelle pour toutes et tous. C'est pourquoi nous nous mettons à l'école de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous nous levons pour dire à sa suite ces mots qui nourrissent notre prière et nous font dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Chers frères et sœurs, en quittant votre place, je vous invite à laisser vos recueils de chants au bout de la rangée. Et ensuite, nous pourrons nous rendre dans la grande sacristie où un verre fraternel nous est servi. Nous pourrons comme cela féliciter Luc, remercier Marc. Nous sommes ce matin l'église des évangélistes. Recevons pour l'heure la bénédiction de Dieu. Le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Amen.